Ce matin, nous allons lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens, à la fin du chapitre 3. Depuis plusieurs mois, nous étudions cette épître de Paul, la première aux Corinthiens, de manière suivie au cours de la prédication. Et il se trouve aujourd'hui que nous poursuivons à l'endroit où nous sommes arrivés, à la fin du chapitre 3, à partir du verset 18. Le texte est affiché en plus. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous se considère comme sage, selon ce monde, qu'il devienne fou pour devenir sage. En effet, la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Car il est écrit, il prend les sages à leur propre ruse. Et encore, le Seigneur connaît les raisonnements des sages, il sait qu'ils sont futiles. Que personne, donc, ne mette sa fierté dans des hommes, car tout vous appartient. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir, tout vous appartient, mais vous, vous appartenez au Christ et le Christ appartient à Dieu. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, ceux qui ont pu assister aux prédications précédentes sur ce livre de 1 Corinthiens auront reconnu à la lecture certains éléments connus. Certains éléments qui sonnent familiers à leurs oreilles. En fait, ce passage vient en conclusion d'un long développement commencé par Paul au verset 10 du chapitre 1. Et il est donc normal qu'il reprenne des choses qu'on a déjà entendues afin de s'assurer qu'elles sont bien rentrées dans la tête des Corinthiens. La première chose qui, moi, m'a semblé familière, je ne sais pas si vous qui avez lu l'Épître aux Corinthiens, elle vous a semblé familière, c'est cette phrase, « La sagesse de ce monde est folie devant Dieu ». Ça, c'est une phrase qu'on a entendue plusieurs fois, sous cette forme, sous une forme un peu différente, mais Paul l'a répétée avec force au cours des derniers chapitres. Pendant le début de son épître, il n'a de cesse de répéter que la sagesse de ce monde, la sagesse des personnes qui nous entourent, de ce que le monde peut trouver sage, c'est une folie. Et c'est une folie parce qu'elle s'oppose à la sagesse de Dieu. S'il a insisté comme ça auprès des Corinthiens, c'est que les Corinthiens sont friands de sagesse. Chez eux, dans leur ville, elle est mise en valeur. On veut être sage. Et dans l'Église, eh bien, ils agissent un peu pareil. Ils cherchent à se différencier les uns des autres par les secrets de sagesse qu'ils pourraient connaître et qu'ils feraient qu'ils sont supérieurs à leurs voisins de banc. Mais Paul leur dit que la sagesse, c'est l'inverse de cela. La sagesse de Dieu est l'inverse de cela. La sagesse de Dieu, ce ne sont pas des secrets difficiles à comprendre et réservés à des initiés. Ce ne sont pas des discours persuasifs qui retournent une foule par leur habileté. Non, la sagesse de Dieu, au contraire, c'est un message d'une simplicité d'évangile. C'est la connaissance, l'information de ce que Jésus est mort sur la croix, cette humiliation, parce qu'il est mort en paiement de la faute du pécheur. La sagesse de Dieu, c'est l'invitation toute simple à mettre sa confiance en lui et rien de plus. Et dans son développement, Paul met les membres de l'église de Corinthe au pied du mur. Vous croyez en Dieu ou non? si Dieu existe, quelle sagesse vaut-il mieux suivre? Celle des hommes ou celle de Dieu? Question rhétorique qui n'amène qu'une seule réponse possible. Eh bien, dans ce cas, chers Corinthiens, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Cessez de chercher à vous hisser dans l'Église comme on le fait dans le monde. Jouez selon les règles de Dieu. Écoutez Dieu en priorité, si je puis m'exprimer ainsi. Deuxième chose qu'on retrouve dans ce passage et qu'on a entendu avant dans le développement de Paul, c'est que personne ne mette sa fierté dans les hommes. Une des raisons qui motive l'écriture de cette longue lettre aux Corinthiens, c'est que les Corinthiens vivent des divisions dans leur Église. Dans leur recherche de sagesse, eh bien, ils se sont divisés en différents partis, en différents clans. Il y en a qui sont pour Paul. C'est Paul qui a raison. C'est ce qu'il enseigne qui est juste. Il y en a d'autres qui sont pour Apollos. Non, c'est Apollos qui est venu après Paul qui a l'enseignement juste. D'autres sont pour Céphas, c'est-à-dire l'apôtre Pierre. Et d'autres pour d'autres penseurs encore, d'autres prédicateurs. Moi, je suis pour un tel. Et les apôtres, les prédicateurs se retrouvent instrumentalisés des étiquettes que chacun porte comme des étendards. Et Paul n'est pas à l'aise pour jouer le rôle d'étiquette. Il a répété aux Corinthiens que Paul, Apollos, Céphas travaillent ensemble à la même œuvre. Ils sont unis en Christ. Ils sont un, comme le Christ est un et ne peut être divisé. Surtout, Paul leur a dit que tous ces prédicateurs, tous ces apôtres ne sont que des serviteurs et que ce n'est pas bien malin que de vouloir se placer comme ça sous l'autorité d'un serviteur. Paul les invite donc et il les invite vigoureusement à se mettre sous l'autorité du maître, sous l'autorité de Dieu, de l'écouter. Mais à côté de ces éléments auxquels on est habitué quand on a lu les premiers chapitres de l'Épître aux Corinthiens, eh bien, on trouve d'autres éléments plus surprenants. Le premier, c'est cette phrase « Que personne ne se trompe lui-même ». Alors, cette phrase, on peut considérer, c'est un avertissement, on peut considérer cet avertissement comme l'introduction à ce qui va suivre. Que personne ne se trompe lui-même, ne confondez pas sagesse du monde et sagesse humaine, ne vous confiez pas à des hommes. Et c'est juste. Mais on peut y voir également un lien avec ce qui précède. Ce qui précède, c'est ce que nous avons vu la dernière fois que nous étions dans la première épître aux Corinthiens. Ça commence à remonter, c'était au mois de février, on a eu une pause dans l'étude de ce livre. Dans le texte que nous étudions précédemment, Paul parlait de croissance. La croissance à la fois du chrétien, mais aussi la croissance de l'Église. L'Église comme une construction dans laquelle chacun de ses membres venait apporter de quoi la construire, de quoi construire cette communauté. Et dans le passage précédent, nous avons le verset 9, que si vous êtes habitué de l'Église, qui doit vous dire quelque chose, puisqu'il est écrit « Nous sommes ouvriers avec Dieu ». Ouvriers avec Dieu, c'est ces mots que nous avons retenus pour être notre mot d'ordre pour l'année 2015. Effectivement, dans ce passage, ce que Paul invite à faire aux Corinthiens, c'est que chacun prenne garde à la façon dont il construit. Que l'on construise avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, l'œuvre de chacun deviendra manifeste. Paul les invitait à construire l'Église, non pas le bâtiment, mais la communauté qu'ils forment. Et il les invitait à la construire en amenant ce qu'ils ont de meilleur. Le meilleur, c'est nécessaire parce que lorsque viendra l'épreuve pour attaquer l'Église, comme un feu, eh bien ce qui tiendra, ce ne seront pas le bois, le foin, le chaume, mais ce seront les pierres précieuses, l'argent ou l'or qui sont inoxydables. Et c'est dans ce contexte d'invitation à la construction, en amenant ce qu'on a de meilleur, que arrive le texte que nous étudions aujourd'hui. Dans ce qu'on apporte à l'Église, il ne faut pas se tromper soi-même. Il ne faut pas penser que ce qu'on apporte est merveilleux et s'en féliciter. Parce que celui qui juge ce qu'on apporte, ce n'est pas nous, c'est Dieu. C'est lui qui révélera ce qui est bon, ce qui tient, ce qui est de qualité. Ainsi que personne ne se trompe soi-même. Et ça nous amène à la deuxième affirmation qui m'a surprise dans ce texte. Je dois vous avouer que j'ai dû la lire plusieurs fois, la méditer longtemps pour la comprendre. À premier abord, cette affirmation est surprenante. Tout vous appartient. Elle est surprenante parce que, dans tout son développement, Paul n'a eu de cesse de calmer les ardeurs des Corinthiens, de leur dire qu'ils ne devaient pas avoir de prétention, ne serait-ce qu'en termes de sagesse. Et là, il leur dit « Tout vous appartient ». C'est surprenant, mais il explique. Tout d'abord, cela se comprend parce que ils appartiennent au Christ. C'est à la fin de notre passage. Tout vous appartient, mais vous, vous appartenez au Christ. Par le prix qu'il a payé sur la croix, Christ s'est acquis ceux qui veulent le suivre. Ses disciples, les chrétiens, lui appartiennent. Suivre Jésus, c'est se sacrifier. Tout laisser pour marcher après lui. Donner ce qu'on a de meilleur. C'est le laisser devenir notre maître. C'est lui appartenir. Et la Bible nous enseigne qu'on ne peut pas servir de maître. Et donc du coup, s'ils appartiennent au Christ, il y a beaucoup de choses auxquelles les Corinthiens ne peuvent appartenir, beaucoup de choses dont ils se sont affranchis. Et Paul dresse une liste, et la liste, on peut dire qu'elle est impressionnante. Tout d'abord, les Corinthiens n'appartiennent pas à leurs prédicateurs. Et effectivement, Paul, Apollos, Céphas n'ont pas été à l'Église pour qu'ils la dominent, mais pour qu'ils la servent. Serviteurs du Christ, ils sont serviteurs de l'Église au service des chrétiens, au service des Corinthiens. Mais la liste continue, la liste de ceux à quoi ils ne sont pas franchis, la liste de ceux qui leur appartient continue. Et finalement, les Corinthiens n'ont pas grand-chose à craindre. Le monde, il a cessé d'être un lieu mystérieux, inconnu, hostile, depuis qu'ils reconnaissent en Dieu le Créateur de toutes choses. Le monde, il est à eux. La vie, eh bien de la même manière, elle leur appartient. Les croyants peuvent vivre pleinement, renouvelés par l'Esprit qui fait d'eux des hommes complets. La mort, elle a été vaincue par Jésus. Elle ne peut plus rien contre ses disciples. Ses disciples que rien ne peut séparer de l'amour de Dieu. Le passé, mais pardonnés par Jésus, ils ne craignent plus rien du passé, de ce qu'ils ont pu faire, de ce qu'on peut leur rappeler. Ils regardent au contraire et avancent vers une vie nouvelle avec une espérance joyeuse, sans crainte de l'avenir. Et cette liste qu'on retrouve ici dans 1 Corinthiens, elle n'est pas sans rappeler la liste célèbre dressée par Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui-même n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher de la mort du Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Sauveur. Tout leur appartient. Plus rien ne rend captifs les Corinthiens. Ils sont libérés de toute servitude et peuvent librement passer de la servitude au service. Et ainsi, Paul boucle son développement sur l'unité que les Corinthiens doivent reconquérir. Sans se tromper eux-mêmes, fuyant la sagesse du monde, refusant de mettre leur confiance dans les hommes, il les invite à avoir une attitude pleine d'assurance et d'espérance, soumis à Dieu seul, maître de tout le reste. Et cette exhortation que Paul fait aux Corinthiens, eh bien, elle est aussi valable pour nous, mes chers amis. En effet, Paul, dans sa conclusion, a pris le soin d'élargir son propos. « Si quelqu'un parmi vous, » écrit-il au verset 18, « si quelqu'un parmi vous, ce peut être n'importe lequel des auditeurs, nous sommes aussi concernés. » Alors bien entendu, nous aussi nous pouvons vivre cette vie où tout nous appartient. Christ, sur la croix, a remporté la victoire et nous n'avons plus à craindre ni le monde, ni la vie, ni la mort, ni le passé, ni l'avenir. Nous aussi, tout nous appartient, pour peu que nous nous placions sous la possession de Jésus-Christ. Mais nous aussi, comme les Corinthiens, écoutons l'avertissement et prenons garde à ne pas nous tromper nous-mêmes. Lorsque nous amenons dans son église de quoi bâtir, lorsque nous apportons notre temps, notre dévouement, notre amour, notre zèle, notre argent, que sais-je, gardons-nous de nous tromper nous-mêmes et de nous dire que, quand même, nous sommes drôlement bien, des chrétiens modèles. Vous savez, l'homme peut être le spécialiste des cadeaux qui ne lui coûtent pas grand-chose. Prenons un exemple. Pour ma part, je suis quelqu'un qui aime faire les choses bien. J'aime quand elles sont bien faites, que le résultat soit beau, mais surtout qu'on ait travaillé de la bonne manière. Et lorsque je travaille pour les autres, c'est la façon dont je fais les choses. Mais soyons honnêtes, ça ne m'a pas coûté grand-chose. Je suis comme ça, je ne sais pas fonctionner autrement. D'autres penseront naturellement aux autres, chercheront à leur faire plaisir. D'autres sont des pacificateurs, tous les conflits, ils les apaiseront. D'autres mettront une énergie formidable pour commencer, pour lancer les choses, etc., etc. Chacun cela selon sa personnalité. Et c'est formidable de travailler ensemble, on peut se compléter et faire de bien belles choses. Mais il faut faire attention et se garder de tomber dans l'auto-congratulation. Comme je suis bien. Comme je travaille bien pour le Seigneur. Si nous prenons une telle voie, mes amis, je crains que nous ne nous trompions nous-mêmes à nous auto-évaluer au lieu de laisser le Seigneur nous évaluer, au lieu de le laisser nous interpeller. Apportons ce que nous avons de meilleur, mais laissons-le nous diriger. Et de même, comme les Corinthiens, refusons la sagesse du monde. La sagesse du monde prend plusieurs formes. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, à notre époque, la sagesse du monde est celle de la liberté et du plaisir. On nous encourage à prendre soin de nous, à nous écouter, à ne pas trop en faire, à être raisonnable. Il faut trouver un équilibre. Un coup j'aide, je participe, parce que c'est important, mais un coup également je me retire, je pense à moi, n'essayez pas de me contacter. J'ai des droits, droit d'être bien, droit d'être heureux, etc. Et il faut que je les fasse respecter. Et cette sagesse qui règne dans le monde, il me semble qu'elle peut pointer son nez parfois dans l'Église. Ce n'est pas étonnant. Nous vivons dans ce monde. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas étonnant qu'il ne faut pas la combattre pour retrouver la sagesse qui vient de Dieu. Parce que la sagesse de Dieu, c'est le don de soi, du sacrifice, de tout laisser derrière soi pour suivre Jésus. Alors, ne laissons pas notre monde nous freiner dans notre élan en nous disant que ce n'est pas raisonnable de tout laisser pour suivre Jésus, de s'investir à sa suite. Refusons la sagesse du monde, refusons également de nous attacher à des hommes. Là encore, dans l'Église, nous pouvons nous attacher à tel pasteur, à tel enseignant, à tel écrivain à la mode. Souvenons-nous de ce que Paul nous rappelle. Nous ne sommes pas là pour nous ranger derrière eux, pour être dans leur équipe, pour leur appartenir. Ce sont des serviteurs choisis par Dieu. Ils sont au service de l'Église. Comme nous, serais-je tenté de dire. Et pour paraphraser Paul et le remettre dans un contexte plus Église évangélique baptiste de Clermont-Ferrand, je serais tenté de vous dire que tout vous appartient. Éric Le Guéhennec, Olivier Randel, Henri Blocher, Rick Warren, Calvin, qui sais-je, tout vous appartient. Mais vous, vous appartenez au Christ. Appartenez au Christ. C'est ce que dit Paul en conclusion de son long raisonnement. C'est à la fois ce qu'il met en avant comme solution pour l'unité contre les problèmes de conflit qu'il rencontre dans cette Église. C'est aussi ce qu'il met en avant comme point de départ pour la suite de son épître quand il va traiter les problèmes concrets qui se posent aux Corinthiens. Appartenez au Christ. C'est une constante pour les chrétiens et il nous faut l'entendre aussi. Dans notre situation aujourd'hui, nous avons besoin d'entendre ce rappel, cette mise en garde pour notre vie, pour notre service envers Dieu, qu'il soit dans l'Église, dans notre famille, notre travail, partout. À nous tous, ne nous trompons pas nous-mêmes. Fuyons la sagesse du monde. Ne mettons pas notre confiance dans les hommes, car nous appartenons à Dieu. Et nous n'avons rien à craindre. Amen.